Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour accueillir avec nous Florian Zeller, qui est venu nous parler de son dernier roman, La Jouissance, qui a été publié aux éditions Gallimard. Alors déjà, il y a quelques jours, vous avez appris une très bonne nouvelle, puisque vous êtes sélectionné pour le Renaudot. C'était une surprise pour vous ou qu'est-ce que ça vous a fait?
Bonjour.
Déjà bonjour.
Très sincèrement. C'est un long parcours de sortir un livre et puis par accident, on peut être sur une liste, ne pas être sur une autre liste. C'est réjouissant d'être sur une liste, mais l'enjeu vraiment ne se situe pas là. Vraiment, sincèrement, écrire un livre, c'est offrir, tenter de l'offrir quelque chose qu'on a ressenti à d'autres, et l'endroit intéressant et l'endroit de la rencontre, il est là. Après, il peut y avoir des événements heureux, mais sur lesquels on n'a aucune prise. Donc, en répondant très sincèrement, ça n'a pas beaucoup...
Ça n'a pas beaucoup d'importance.
Non, je crois pas.
D'accord. Bon, nous, on vous souhaite quand même de l'avoir.
Moi aussi.
Une autre question, enfin, qui ne concerne pas le roman directement, puisque donc là, pour la première fois, vous éditez aux éditions Gallimard. Qu'est-ce que ça fait de rentrer dans une maison aussi prestigieuse ?
Mais c'est vrai que ça représente toute une histoire de la littérature, la collection Blanche, et pour quelqu'un qui écrit, c'est évidemment une joie timide de se rapprocher de cette histoire-là. Pour moi, elle était matérialisée par deux, trois choses, notamment la bibliothèque de chez Gallimard, où on signe les premiers exemplaires des livres, ou le bureau de Claude Gallimard, qui sont des endroits un peu mythologiques de la littérature, et de rentrer physiquement dans ces endroits-là, ça, voilà, on a l'impression d'appartenir à cette histoire-là.
D'accord. Donc, La Jouissance à un roman. Ça faisait très longtemps que vous n'étiez pas revenu au roman pour vous consacrer plus au théâtre. C'était une envie de retrouver le roman ou de faire une pause dans le théâtre ?
Non, c'était pas une pause dans le théâtre. C'est vrai que ça faisait 6 ans que j'avais pas publié de livre. J'ai continué d'écrire parce que j'ai beaucoup écrit pour le théâtre. J'y ai trouvé beaucoup de joie parce que le théâtre, c'est une écriture mais aussi une vie très joyeuse. Et ça m'a beaucoup nourri, habité pendant toutes ces années-là, mais sans jamais garder ni le désir, ni l'application à l'écriture du roman. Mais je voulais prendre le temps d'écrire vraiment le livre que je voulais écrire, en fait. Et ça m'a pris 6 ans. Voilà. Et je le voulais, je le ressentais moi comme un nouveau départ, un peu. C'est aussi pour ça que ça m'a semblé juste de changer de maison d'édition et de recommencer un nouveau chemin.
C'est une sorte de nouveau départ, en fait.
Voilà.
Donc, La Jouissance, un roman européen, un titre très beau, mais en même temps très curieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le choix de ce titre ?
Alors, il s'appelle La Jouissance. Le choix, c'est parce que, d'abord, c'est un mot que j'adore, que je trouve beau à regarder, à entendre. Aussi parce que se dissimule juste derrière un autre mot qui est celui de la joie. Et c'est pour ça que le livre s'ouvre sur l'hymne à la joie de Beethoven, parce qu'il y a une situation que je trouve très belle dans sa vie, où quand il écrit l'hymne à la joie, enfin l'ode à la joie, c'est la fin de sa vie, il est malade, il est humilié par tout le monde, plus personne ne le prend vraiment au sérieux, et il est sourd surtout. Et donc il aurait toutes les raisons d'être désespéré, il pourrait être un professeur de désespoir, et pourtant il écrit cette hymne qui nous oblige à la joie, et je trouve qu'il y a là une sorte d'acte héroïque, ou plutôt qui souligne l'héroïsme de la joie en dépit des tracas et même des tragédies de la vie. C'est ça que j'aime dans ce mot joie, qui se cache derrière le mot jouissance. Mais pourquoi j'ai voulu que le livre s'appelle La Jouissance ? C'est parce qu'il me semblait que c'était un mot qui cristallisait à la fois la beauté et les symptômes de notre époque, et que je tentais de croquer à travers ce livre. Le point de départ initial de l'écriture, c'était vraiment un point d'observation tout à fait personnel. C'est que j'ai eu beaucoup d'amis qui ont eu des enfants à 30 ans, qui tous, quasiment tous, 1 an ou 2 ans après, se sont séparés de leur conjoint. Et voilà, c'est vraiment un accident de la vie où je me suis retrouvé au milieu de plein de ruptures, et chacune de ces ruptures se ressemblait dans leur tristesse ou dans leur modalité. Et tout ça m'a vraiment interpellé, d'autant plus qu'au même moment, ma femme apprenait qu'elle était enceinte. Alors tout ça a tourné un peu dans ma tête, et je me suis demandé s'il ne se passait pas quelque chose là derrière l'évidence, quelque chose qui interpelle notre époque avec la même force que s'il s'agissait d'un fait sociologique majeur, comme si pour la première fois, on avait comme désappris à faire des enfants. Je veux dire, pour la première fois, parce que de tout temps, le fait de faire des enfants, c'était un lien, ça constituait une sorte de ciment puissant entre les êtres qui permettait de dépasser ces difficultés sentimentales. Et pour la première fois, l'équation semblait comme inversée. C'était parce qu'il y avait un enfant que l'amour d'un coup devenait un obstacle difficile à franchir, ou d'un coup comme s'il était mis en péril. Et je me demandais si on n'avait pas perdu le sens du sacrifice, du renoncement, et si on ne vivait pas sous la tyrannie joyeuse de la jouissance. C'était la question qui était à l'origine de l'écriture de ce roman. C'est pour ça que le livre s'appelle La jouissance.
Et justement, comme vous disiez, il y a beaucoup d'images assez fortes et assez drôles en fait, dans ce roman. Je pense notamment au moment où vos deux personnages principaux, Pauline et Nicolas, nous racontent la première fois qu'ils font l'amour, et vous faites un parallèle avec l'Europe en disant qu'il y a 27 pays qui s'invitent un petit peu dans leur lit.
Oui, là, le lit est très grand, en fait. C'est vrai que le livre s'ouvre dans un lit dans lequel, effectivement, il y a ces personnages, et c'est le lieu principal du livre. Et il est large, il est vaste, ce lit, puisqu'il y a d'abord les personnages, mais j'ai voulu qu'il soit suffisamment vaste aussi pour contenir tous les auteurs, ou tous les réalisateurs, ou tous les moments même de l'histoire politique qui ont construit, moi, mon imaginaire. Et c'est pour ça que sous ce lit, sous cette couette, on croise aussi Michel Léris, Kundera, Cioran, ou Beethoven, comme j'en parlais tout à l'heure, ou Godard. Toutes ces figures qui moi, m'ont habité, elles apparaissent aussi. Et finalement, le livre est comme une promenade qui suit tour à tour l'histoire de ces deux personnages, Pauline et Nicolas, et parallèlement à cela, sous la forme de la promenade, c'est-à-dire d'association d'images et d'idées, des figures qui m'étaient chères et qui constituent mon imaginaire. Au début, c'était vraiment une sorte de par esprit ludique que je faisais ça, c'est-à-dire l'art de la digression. J'étais en train de raconter quelque chose et puis soudain, tiens, une autre image apparaissait et je me laissais avec liberté aller d'une image à une autre. Et ces images me menaient vers un chantier très étrange qui était celui de la construction européenne. Et dans un premier temps, donc, je suivais cette piste de la construction européenne, de ces grandes étapes, sans trop savoir où j'allais. Et puis soudain, je me suis dit que peut-être il y avait un sens qui apparaissait, à savoir que je me suis demandé si les lois qui régissent les individus ne ressemblaient pas de façon troublante aux lois qui régissent les pays. C'est-à-dire que à l'échelle de l'Europe, c'est parce que les pays se sentent faibles à un moment qu'ils tentent de mettre en commun des initiatives pour se sentir plus forts, pour tenter d'accoucher d'un enfant qui est la paix. Et de la même façon, il me semble que c'est parce qu'on a à un moment l'intuition de sa propre précarité, de sa propre fragilité et de sa propre mortalité qu'on en vient peut-être à constituer un ensemble plus large que soi-même, c'est-à-dire un couple, une famille, et que les deux pistes narratives pouvaient former des échos poétiques l'un avec l'autre. Donc effectivement, le livre suit deux pistes narratives, la petite histoire et la grande histoire. Mais ce n'était pas que un jeu formel, c'était aussi parce que, quand je disais tout à l'heure que ceux de ma génération m'apparaissaient comme des gens qui ont perdu le sens du sacrifice, l'intuition qui était la mienne, pour essayer d'expliquer cette situation, c'était de me dire que peut-être nous étions la première génération à s'être construite complètement en dehors de l'histoire, comme si nous étions passés à travers les filets de l'histoire. Et que du coup, nous étions comme superbement à préparer pour les petits tracas de la vie quotidienne. Il y a deux images comme ça de l'histoire un peu plus large qui m'habitaient au moment où je voulais écrire ce livre. La première, c'est une anecdote que j'aime beaucoup, qui concerne Michel Léris, qui est un écrivain que j'aime lui aussi beaucoup, et qui, vous le savez, a écrit un très beau texte qui s'appelle L'âge d'homme, notamment, dans les années 30, et qui est un texte très intime, très subjectif, dans lequel il descend dans l'archéologie de tout ce qu'il a constitué, lui, intimement, dans la littérature. Il a un beau succès, puis en 1944, son éditeur lui demande de réécrire une petite préface pour la réédition de ce livre. Et il a cette étrange idée que je trouve merveilleuse de prendre un train, d'aller jusqu'au Havre, de choisir un hôtel, prendre une chambre, une chambre avec une belle fenêtre et un petit balcon. Où pense-t-il, il sera complètement à l'écart du monde pour pouvoir écrire tranquillement cette préface. Et là, il ouvre sa fenêtre, il est sur son balcon et voit le port complètement dévasté du Havre. On est en 1944. Il y a là l'histoire, la grande histoire qui se rappelle à lui dans un vacarme torturé. Et soudain, tout ce qui avait de l'importance pour lui, son écriture, l'exploration de sa propre souffrance, tout ça, d'un coup, fait figure de rage dedans. Et je me dis que voilà aussi ce que nous enseigne l'histoire. Ça nous permet de renvoyer ce qui nous peine, ce qui nous tracasse et ce qui nous fait souffrir à l'échelle de la rage dedans. Et moi, souvent, par la pensée, en tout cas, je me retrouve sur ce balcon auprès de Michel Léris pour annuler, ça s'appelle relativiser. Et je raconte en fait l'histoire de deux personnages qui n'ont plus accès à ce petit balcon de Michel Léris, étant complètement extérieurs à l'histoire et n'ayant plus aucun modèle plus large qu'eux-mêmes pour relativiser leur souffrance. Et puis il y avait une deuxième image, une deuxième image comme ça qui m'habitait de la construction européenne, c'était celle que vous connaissez aussi sans doute de Mitterrand et Kohl en 84 qui sont à Verdun pour commémorer les morts de 14-18. Ils sont l'un et l'autre, il y a une célébration officielle et soudain, Kohl et Mitterrand se tendent l'un et l'autre la main, ils se prennent la main entre l'un et l'autre et il y a cette photo qui figure et qui cristallise ce qu'on appelle la réconciliation et le pardon. Et ce qu'il y a de beau, je trouve, dans cette image qu'on a retenue dans les livres d'histoire, c'est qu'il y avait tellement d'arguments, même juste après la guerre, tellement d'arguments pour prolonger éternellement l'histoire de la rancune et de la haine, qu'il y avait là aussi une dimension héroïque à tendre la main, à la saisir et à pardonner. Et c'est ça aussi que nous enseigne l'histoire, la grande histoire, c'est à pardonner. Et là aussi, je racontais l'histoire de deux personnages qui, étrangement, ont perdu de vue la possibilité du pardon, de la main tendue, de cet héroïsme-là, et qui s'enlisent dans la petite guerre, les petites jalousies, les petits textos, les petites tromperies, tout ce qui fait la banalité atroce de nos vies sentimentales. Voilà quel était le projet de mon livre.
Un vaste projet et un très beau projet. Alors, comme vous dites, il y a vraiment deux histoires qu'on suit, mais on a aussi l'impression aussi que vous faites plaisir en parlant des gens, des personnalités que vous aimez, puisque vous nous parlez donc de Beethoven, vous parlez de Sartre et de Beauvoir. Est-ce que c'était une sorte d'hommage aussi que vous vouliez leur rendre ou...
Pas vraiment un hommage, en fait, mais je voulais me les approprier, parler d'eux librement, parce que je trouve que c'est ça aussi qui est beau dans un parcours, dans un imaginaire, dans une personnalité quelle qu'elle soit, qu'elle est toujours la somme de choses qui se sont décantées en lui. Et je sais que c'est pour ça qu'un écrivain n'est pas le même qu'un autre écrivain et qu'un réalisateur n'est pas le même qu'un autre écrivain, qu'il a d'autres choses à dire. C'est qu'il est la somme d'autres écrivains et d'autres réalisateurs qui le composent. Et je trouvais que ça avait un sens d'ouvrir, entre guillemets, cette arrière-boutique de l'imaginaire, même si la formule n'est pas très jolie, mais voilà, de le faire en toute liberté, de convoquer tous ceux qui m'ont mené vers l'écriture et vers la liberté de l'écriture. Et il y avait au centre d'eux, il y avait surtout Kundera. Le livre, il se présente peut-être davantage comme un hommage à Kundera, mais aussi parce que le point de départ de l'écriture, il y avait aussi une autre anecdote. Bon, je raconte beaucoup d'anecdotes, mais... Et là, c'est Kundera qui m'avait raconté cette anecdote et je la trouvais vraiment belle et signifiante et elle apparaît dans le livre. Ça se passe dans les années 80 chez Claude Gallimard. Claude Gallimard, c'est donc le père d'Antoine Gallimard qui est l'éditeur aujourd'hui chez Gallimard et c'était le fils de Gaston Gallimard qui a créé Gallimard. C'est dans les années 80, il fait un dîner chez lui, il invite plusieurs écrivains comme ça se fait de temps en temps, parmi lesquels, donc Kundera et Suran. Et Suran, vous le connaissez bien, qui était une sorte de professeur de désespoir, lui, pour le coup, et un philosophe qui pouvait facilement vous donner envie de vous suicider. Et au cours de ce dîner, pourtant, il paraît qu'il était un convive assez joyeux, assez agréable, et même quand on avait un coup de déprime, il paraît qu'on pouvait facilement aller lui parler, qu'il vous remontait le moral. Il fallait mieux parler avec lui que le lire. Pourtant, durant ce dîner, il ne dit pas un mot pendant le plat principal, il ne dit pas un mot pendant... l'entrée, l'apéritif, hein, il reste muet. Tout le monde s'en inquiète car c'est toujours un petit peu déstabilisant d'avoir quelqu'un à une table qui ne dit pas un mot. Bon, mais le dîner passe et soudain, il lève les yeux et dit oui, d'une voix très silencieuse, comme ça, il dit oui, au fond, l'événement le plus important de la deuxième partie du XXe siècle. Et il s'arrête. Alors tout le monde le regarde parce qu'on a envie de savoir la fin, quand même l'événement le plus important de la deuxième partie du XXe siècle. On se dit, est-ce que c'est le culte de l'argent, la libération sexuelle, la fin du communisme? Et non, il prend son temps, comme moi, et et dit, non, l'événement le plus important de la deuxième partie du XXe siècle, c'est le rétrécissement progressif des trottoirs. Et alors les gens le regardent, sourient un peu avec une certaine incrédulité, parce que comment peut-on sérieusement considérer que le rétrécissement progressif des trottoirs est l'événement le plus important du XXe siècle ou de la deuxième partie du XXe siècle? Est-ce que c'est une plaisanterie? Et soudain, cette phrase, elle m'a habité. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une vérité derrière? C'est-à-dire tous les événements les plus visibles dont on s'empresse de dire qu'ils font l'histoire, est-ce que ce sont vraiment eux qui déterminent nos vies et qui les bouleversent? Est-ce qu'au fond, ce qui change en profondeur nos vies ne demeure pas toujours dans un lieu complètement invisible que la littérature d'ailleurs a vocation à mettre en lumière? Parce qu'à travers le rétrécissement des trottoirs, c'est d'un coup notre rapport au temps qui est modifié, puisque c'est notre rapport à la rêverie, à la promenade, au rendez-vous, rendez-vous amoureux, donc à l'amour, à la ville, à la beauté. Et je me dis que peut-être Suran voulait dire cela, que les choses les plus importantes, les modifications les plus importantes de nos vies se tiennent dans un lieu secret, invisible, sur lequel on passe tous les jours sans trop s'en rendre compte. Il n'y a que la littérature qui soudain peut nous imposer une pause, nous la suggérer en tout cas, pour regarder le monde différemment. Et je me disais, et si modestement je devais répondre à la question quel est l'événement le plus important des premières années de ce 21e siècle, qu'est-ce que je répondrais? Et c'est ce cheminement que j'ai voulu suivre dans ce livre. Et je me suis dit, peut-être que c'est justement toutes ces jeunes femmes avec des bébés dans les parcs qui les promènent tristement. Peut-être que ce sont tous ces jeunes hommes qui poussent leur nouveau bébé en s'appuyant sur des poussettes comme s'il s'agissait de béquilles. Peut-être que c'est ça, en fait, qui révèle ces premières années, c'est-à-dire la disparition de la notion de sacrifice. Voilà.
Très bonne réflexion, en tout cas. Je repars un petit peu sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, quand vous disiez que vous aviez mis longtemps à écrire ce roman. Dans votre roman, Nicolas est un scénariste qui rêve d'écrire un petit peu son œuvre représentative de sa vie. Est-ce que vous avez l'impression que la jouissance est représentative de l'ensemble de votre œuvre ou de votre vie même?
C'est pas représentatif de ma vie, dans la mesure où ça ne ressemble pas à ma vie, mais mon ambition, c'était d'essayer de faire quelque chose qui soit représentatif du monde dans lequel moi j'ai l'impression de vivre. Mais pour autant, il n'y a rien de l'art de la confession, et je dis pas ça pour avancer masqué, mais parce que c'est vraiment pas mon projet, en fait. Mais je voulais, c'est vrai, tenter de mettre dans ces quelques pages tout ce que je ressentais de mon époque dans ce qui m'apparaît comme étant lumineux ou complètement symptomatique. Je voulais, mais c'était une ambition, c'est peut-être pas réussi, mais que ces quelques pages portent un peu toutes ces cicatrices-là, que ce soit comme un miroir de cette époque-là.
Très bien. Et je serais allé un peu à la lecture, en fait, de votre roman. Il y a quelque chose qui m'a profondément étonnée. C'est que donc vous parlez de ce couple à la troisième personne du singulier. Et parfois, il y a le jeu qui arrive. Vous intervenez dans votre roman. Mm-hmm. Je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui avait fait ce choix-là d'intervenir un petit peu comme si vous étiez étranger à ce qui se passait.
Je pense que c'est la somme de plusieurs choses, mais la raison principale, c'était pas une réflexion, c'est pas une décision. Je me suis pas dit voilà comment je vais construire les choses, mais puisque j'avais décidé de suivre les associations d'idées, d'images qui me venaient, c'est-à-dire d'être dans cet état de liberté-là, narrative, hein, je veux dire, Eh bien, ça me mettait dans une situation comme ça, non pas de hauteur, mais d'extérieur à ce qui se passait. Et aussi parce que je voulais guider cette promenade entre l'histoire de ces personnages et les grandes figures qui apparaissaient. Je voulais que ce soit moi qui soit le guide de mon imaginaire. Voilà pourquoi ce jeu intervient assez régulièrement.
Vous nous prenez un petit peu par la main. Enfin, vous nous menez un peu au fil de votre réflexion.
Oui, et puis aussi, c'est parce que je voulais emmener, comment dire, qu'on ne tombe pas dans l'anodin de cette histoire-là, parce qu'effectivement, l'histoire d'amour, elle a toutes les étapes des histoires d'amour qui se construisent et se déconstruisent, et je voulais tenter de contourner ce qu'il y a d'anodin par la liberté que m'offrait ce jeu, c'est-à-dire de faire des détours, des raccourcis, des associations d'idées absolument gratuites. Voilà.
En revanche, on peut noter quand même que vous n'avez pas pu vous empêcher d'utiliser la forme théâtrale, puisque à la fin de la partie 2, il y a un dialogue avec des didascalies. C'était un clin d'œil, c'était une envie de se rappeler comme ça au théâtre qui vous manquait peut-être.
Là, c'était vraiment une considération purement formelle. Dans un premier temps, le dialogue, je l'avais écrit comme formalisé comme dans un roman, et puis je l'ai retransformé ensuite en écriture. Là, juste, là, je parle de topographie, de typographie. Bah, parce que voilà, c'était la somme de tout ce que je suis aussi. En fait, c'était pas écrit comme une pièce de théâtre, c'est écrit comme un scénario, pour
D'accord.
être précis. Et parce que ça correspond pas quand on voit un scénario publié ou une pièce de théâtre publiée, c'est pas exactement écrit de la même façon. C'était plutôt comme un scénario. C'est vrai que c'était un personnage qui rêvait de faire du cinéma, qui n'y arrivait pas, et qui embrassait le XXe siècle avec tous ses grands héros, et qui n'avait du mal à trouver sa place dans ce début de siècle. Et voilà, c'était une apparition formelle du cinéma, mais aussi, je crois que comme moi j'ai beaucoup pété vers la forme d'écriture du dialogue et du théâtre, sans doute il y avait aussi là des traces de tout ce que j'ai appris dans le théâtre. Je crois que c'est un livre qui est chargé de ce détour par le théâtre.
Oui,
Les scènes
effectivement.
sont courtes, elles sont souvent dialoguées, et ça je crois que c'est vraiment le théâtre qui m'a appris tout ça.
C'est quelque chose dont vous pouvez certainement pas vous départir en fait, même lors de l'écriture d'un
Oh, je
roman.
pourrais faire une description très longue et très ennuyeuse, mais voilà, en tout cas, c'est un livre qui formellement ressemble en fait à mon imaginaire. C'est ce que j'ai essayé de faire, de le proposer dans tout ce qu'il peut avoir d'imparfait, d'inabouti ou d'inachevé ou de contradictoire. Mais j'avais l'impression qu'il ressemblait à l'état de mon cerveau.
Parlons de l'état de votre cerveau. C'est drôle parce que dans votre roman, alors après, est-ce que c'est une partie de vous ou est-ce que c'est une partie inventée? Bon, ça vous allez peut-être nous le dire, c'est que vous donnez à un moment la définition de la vieillesse qui ne vous ressemble pas beaucoup là, telle que vous êtes là. Enfin, j'avais vu une vision très pessimiste en fait de cette définition. Et surtout, c'est pas qu'une définition de la vieillesse, c'est aussi la définition des trentenaires, en fait.
Oui, en fait, c'était une définition du verbe vieillir. Et vieillir, c'est pas la vieillesse. On vieillit
De
tous à tout
vieillir.
moment. Et même si on commence par appeler ça grandir, mais que la vie soit un processus de démolition, je crois que c'est difficile de le contester. Ça veut pas dire que la destination soit forcément sinistre, mais oui, c'est vrai, ce personnage avait un enfant, il a 30 ans, et soudain, il est envahi d'un sentiment d'avoir vieilli. Et il définit le fait de vieillir ainsi en disant qu'il y a un moment d'équilibre provisoire et précaire où il y a pratiquement autant de choses à vivre devant soi que de choses vécues derrière soi, et qu'en somme, l'espérance et les souvenirs représentent une masse à peu près équivalente. Et que vieillir, ce serait peut-être ce transvasement progressif d'une masse vers l'autre, d'une masse de plus en plus imposante des souvenirs, et une masse de plus en plus sur le départ de l'espérance. Et que peut-être, voilà, ce transvasement va jusqu'au bout, au moment où il n'y a plus du tout d'espérance, et que la poche contenant les souvenirs est si pleine qu'elle finit par par craquer, par fuir de toutes parts. Mais pour autant, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir une vision désespérée du fait de vieillir, en fait. Surtout en amour, d'ailleurs, puisque c'est un roman qui parle d'amour. Je trouve qu'il y a dans l'amour quelque chose qui prend de la puissance et un enjeu plus vaste au moment, justement, où, non pas où on vieillit, mais au moment où on prend, comme je disais tout à l'heure, conscience de sa propre mortalité. Je veux dire par là que il y a une phrase de Bernanos que j'aime beaucoup, qui est étrange, mais qui dit « Aimer, c'est partager avec quelqu'un le sentiment d'être mortel. » Et je crois que cette phrase est très puissante. Je crois qu'il y a un moment où aimer quelqu'un vraiment, c'est-à-dire avec tout ce que ça implique de renoncement, avec tout ce que ça implique de pardon, de capacité au pardon, avec tout ce que ça implique d'humilité, eh bien, je crois que c'est le produit d'une certaine humiliation qui vient de la conscience de sa mortalité. Et je trouve ça beau de dire aimer, c'est-à-dire presque vieillir à deux, c'est partager avec quelqu'un le sentiment d'être mortel, et donc s'en consoler un petit peu.
Alors, en parlant d'amour, justement, donc dans votre roman Pauline et Nicolas, vous mettez en scène deux personnages que tout oppose un petit peu. Lui, c'est un grand rêveur, il rêve d'écrire son scénario, donc il est très, on pourrait dire qu'il est très lunaire. Elle, au contraire, très, très terre à terre, elle est déjà bien avancée dans la vie professionnellement, on dirait qu'elle sait ce qu'elle veut. C'est drôle d'avoir choisi ces deux personnages.
Mais c'est pas moi qui les ai choisis, c'est eux qui se sont choisis. Et l'amour fonctionne toujours comme ça. C'est toujours quand deux névroses, ça marche que quand deux névroses se complètent à peu près, quoi. Et c'est vrai que lui, il était ce que j'appelais un jouisseur, en fait. Je reprenais là justement une phrase dans un dialogue de Kundera. Il y avait deux personnages qui disaient un jour, il faudrait faire cette expérience qui consisterait à mettre des électrodes sur le cerveau des individus pour voir combien de temps chacun passerait respectivement dans le présent, dans le passé, dans le futur. Et puis il a arrêté la discussion. Je me suis dit, c'est vrai, si on faisait cette expérience sur un... Par exemple, si on le faisait tous ensemble, on pourrait peut-être établir trois catégories fondamentales d'êtres. Ceux qui passent un temps considérable dans le passé, de façon joyeuse ou triste ou carcérale, peu importe, mais dans le passé, on pourrait les appeler les nostalgiques, et puis ceux qui ont le talent ou la chance de vivre énormément dans le présent, on pourrait les appeler les jouisseurs, et ceux qui passent un temps considérable à investir et à pronostiquer l'avenir, on pourrait les faire appartenir à la catégorie des angoissés. Et bien sûr, ce sont des catégories, donc ça a une simplification du monde, mais je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose qui permet d'appréhender le monde ou les êtres, en se disant il y a trois catégories comme ça. Et Nicolas, le personnage de ce roman, lui, il appartenait résolument à la catégorie des jouisseurs. Il était vraiment... il répondait positivement à l'impératif quasi catégorique de Beethoven qui disait « Soyez joyeux, c'est le seul héroïsme qui compte. » Et elle, au contraire, elle était angoissée. Et je crois que pour ceux qui sont angoissés, moi, par exemple, je suis de la catégorie des angoissés, eh bien, il n'y a rien de plus délicieux que de vivre avec des gens qui sont joyeux. Ce sont les gens, moi, que j'admire et dont je m'entoure. Et je sais que c'est parce que l'irradiation de leur joie me constitue une sorte de barrage contre mes mauvaises pensées. Et donc là, c'est vraiment la conjonction de deux névroses qui se complètent. Et je crois que c'est surtout ça. Vivre avec quelqu'un, c'est mettre en commun des névroses complémentaires.
Et est-ce que vous avez cherché, toujours sur ces deux personnages, à choquer un peu vos lecteurs, puisque vous parlez de fidélité, de... Comment dire, à un moment, il y a cette question, on pourrait se demander si un homme peut se satisfaire que d'une seule femme. Vous parlez, est-ce que mieux vaut la polygamie, enfin, voilà, vous utilisez plein de sujets comme ça qui pourraient se dire... On a affaire à un provocateur.
Non, en fait, alors vraiment très sincèrement, il n'y avait aucun instinct de provocation et je ne suis pas du tout un provocateur. Mais j'ai essayé d'aborder les questions sans jamais les contourner, en fait. Effectivement, à un moment, le personnage se demande si un homme peut sexuellement se satisfaire d'une seule femme. Après, chacun apporte sa réponse. Lui est convaincu que non. Et c'est après tout une vision du monde défendable et il n'y a rien de provocateur là-dedans. Et effectivement, lui, il est dans une histoire d'amour et il se dit, mais alors, qu'est-ce qui va se passer au fond? Il y a quelque chose de terriblement désespérant, de se dire que peut-être toutes les histoires d'amour se ressemblent un petit peu, ou en tout cas, il n'y a que quelques scénarios qui sont à la disposition des histoires. Et tous les scénarios sont un peu tristes. Alors, il essaie de les établir comme ça. Il se dit, il y a le scénario romantique qui consisterait à se dire, voilà, qui exclurait toute notion d'infidélité, consisterait à dire, voilà, l'amour est éternel, etc. Et donc, il essaie d'établir de catégoriser tous les scénarios possibles. Et ça devient effectivement très, très, non pas provocateur, mais ça projette une lumière un peu désespérante sur les chances de survie d'un amour.
Justement, oui, alors vous disiez, il y a donc les différents scénarios qui existent. Donc vous avez le scénario romantique, le scénario sentimental, le pathétique, le bourgeois, le sartrien. Vous feriez partie de quel scénario?
À titre tout à fait personnel. C'est une question très intime.
Non, vous n'êtes pas obligé de répondre.
En tout cas, je trouve que ce qui est beau, c'est qu'à chaque moment de l'histoire, les gens tentent de réinventer une façon d'aimer. Car on n'est pas obligé d'aimer l'autre tel qu'on nous a appris qu'il fallait l'aimer. Et il y a par exemple cette incursion étrange de Sartre. Il a 23 ans, il est avec Simone déjà, Simone de Beauvoir. Ils sont dans le jardin des Tuileries. Ils sont tout jeunes, ils sont amoureux, très amoureux. Et lui, il pressent qu'il aura besoin de connaître beaucoup de femmes pour être heureux, mais aussi pour connaître le monde. Il se dit, pour connaître le monde, il faut le connaître à travers les femmes. Mais le problème, c'est qu'il est amoureux. Et il ne veut pas refaire ce qui a toujours été fait pendant des siècles. Ça consiste à être amoureux, très bien, puis mentir, avoir d'autres histoires à côté. Cette dissimulation-là, qui a fait ses preuves au cours des siècles, c'est ce qu'on appelle l'amour bourgeois, il se dit, peut-être qu'il y a une autre façon de penser à l'amour. Et c'est ce qu'il propose ce jour-là, un pacte à Simone de Beauvoir. Il s'assoit sur un petit banc et il lui dit, voilà, il faut absolument qu'on invente quelque chose de nouveau. Alors elle lui dit, mais oui, mais quoi? Il dit, voilà, je te propose un pacte renouvelable tous les 5 ans, je crois, qui consisterait à avoir le droit de faire absolument tout ce qu'on veut l'un et l'autre, à condition qu'on se le dise. Il faudrait donc distinguer les amours contingents et les amours nécessaires. Les amours nécessaires, c'est toi et moi. Les amours contingents, ce sont toutes les autres qui nous permettent de vivre, d'éprouver, de ressentir le monde et sa sensualité et sa tragédie. Ça met en péril notre amour nécessaire. Et elle dit, mais oui, mais je serai jalouse. Et lui dit, non, tu ne seras pas jalouse puisque je te dirai tout, on en parlera, et donc tu ne te sentiras pas trahie. Et ce jour-là, elle est séduite par ce jeune garçon qu'elle aime, elle le trouve intelligent, et elle lui dit oui. Et je trouve ça beau parce que c'est une proposition radicalement neuve de l'amour, c'est-à-dire la transparence absolue. Aujourd'hui, quand on connaît l'histoire littéraire, on sait que ça a été affreux, qu'ils se sont jalousés, qu'ils ont souffert atrocement. Et moi, par exemple, si j'étais Simone de Beauvoir, jamais j'accepterais un amour sartrien. Donc le scénario sartrien, déjà
non.
Et voilà, moi j'oscille comme tout le monde dans des contradictions.
Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, moi je me serais pas permis. Donc vous êtes plutôt quelqu'un donc d'angoissé, donc tourné vers le futur. Donc qu'est-ce que vous nous préparez pour la suite?
Qu'est-ce que je prépare pour la suite? Alors là, je prépare rien du tout pour la suite.
Déjà ce soir, vous avez
votre première. Ah oui, ce soir c'est la première de ma pièce à Paris.
Voilà.
Et Je vais être en retard d'ailleurs, à cause de vous.
C'est pour ça, c'est la dernière question, après on ne vous embête plus.
Et voilà, donc c'est du théâtre qui m'attend là, mais ça dépend, là c'est déjà écrit. Et j'ai une autre pièce qui commence en mars avec Fabrice Lucchini. Mais ça, ce sont des projets qui sont à venir, mais oui. Moi j'ai déjà fait ma part du travail, j'allais dire. Mais une fois, j'attends, je crois, ces deux rendez-vous pour savoir un peu ce qui me reste de désir ou ce qui va se passer, mais je ne sais pas du tout. Pour moi, le rendez-vous important, c'était vraiment ce roman. Je l'ai attendu avec beaucoup de silence, de patience, parce que c'était quelque chose de, voilà, à titre très individuel, d'important, mais sans avoir aucune vision de l'avenir, en fait.
Bon, Bon, on attendra, on sera patient et on espère vous accueillir de nouveau pour le prochain roman ou la prochaine pièce. Merci beaucoup,
merci
en tout cas, d'être venu.
Merci.
Vous pouvez vous approcher.
Merci beaucoup. Merci.